bienvenue à ce balado sur l'égalité des chances en éducation. Je crois fondamentalement qu'au Québec, chaque personne devrait avoir la possibilité de choisir son parcours éducatif et professionnel. Je m'appelle Maude Roy-Vallière. Je suis chercheuse à l'éducation préscolaire et, dans ce balado, j'accueille des experts qui nous partagent leur expérience sur l'égalité des chances en éducation. Restez à l'écoute pour en savoir plus! L'école à trois vitesses, c'est un concept qui, étonnamment, ne date pas d'hier. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'où vient l'école à trois vitesses. Pour nous expliquer le tout, je reçois messieurs Claude Lessard, professeur émérite à l'Université de Montréal, pour ses connaissances en lien avec l'historique de ce phénomène, et Gabriel Rompré, chercheur indépendant, pour ses connaissances en lien avec les affectations scolaires. Bonjour Claude.
Bonjour Maude.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient l'école à trois vitesses?
Certainement. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que le Québec, historiquement, a une longue tradition de l'enseignement privé. Que la Révolution tranquille, le rapport Parent et les grands changements associés à la charte de l'éducation des années 60 n'ont pas modifié fondamentalement. On a créé un réseau d'institutions scolaires publiques, du primaire jusqu'à l'université, et on a reconnu l'existence d'un secteur d'enseignement privé, en grande partie dans les années 60 au nom de la liberté religieuse et du droit des parents de choisir une éducation conforme aux valeurs, on va dire religieuses à l'époque, que les parents épousaient. Il faut dire ça, l'enseignement privé existe, et s'il a connu une certaine baisse dans les années 60, en partie reliée à la réforme et à l'apparition d'institutions publiques gratuites, assez rapidement, l'enseignement privé a repris du poil de la bête, pourrait-on dire, et a cru en termes d'effectifs tout au long des années 70 et 80-90, au point d'être actuellement, au moins pour le secondaire, à 20 %. Un 20 % d'ailleurs qui est beaucoup plus élevé dans les grands centres urbains et sur certains territoires de centres de services scolaires, c'est même dans les 40-45 %. Bon, donc ça c'est le premier fait qu'il faut mettre sur la table. L'existence d'un réseau privé et la concurrence efficace qu'exerce le réseau privé sur le réseau public. À partir du milieu des années 80, les commissions scolaires, quand c'était encore des commissions scolaires, ont pris conscience de cette concurrence-là et ont voulu y réagir. On était dans une période de décroissance démographique, là. Alors, la concurrence du privé faisait mal au réseau public, ça voulait dire des fermetures d'écoles, des mises à pied d'enseignants, ou un surplus de personnel, tout ce que vous voudrez. Une série de problèmes bien réels. Alors, les commissions scolaires ont cherché à réagir et elles se sont dites, ma foi, si nous avions une offre scolaire plus diversifiée, si nous essayions de rivaliser véritablement avec le réseau privé en offrant ce qu'il offre, peut-être nous pourrions arrêter la saignée de nos effectifs. Il y a un événement important, c'est les états généraux des commissions scolaires en 1986, à ne pas confondre avec les états généraux, la commission des états généraux de 1995-1996. Et c'est à ce moment-là que les commissions scolaires se sont dit « OK, on fonce ». Et elles ont demandé au ministère une capacité de déroger au régime pédagogique pour pouvoir offrir des programmes particuliers. Le ministère a dit oui, soumettez-nous des choses, on va les approuver. Et au fil des ans, la dérogation est devenue une autorisation quasi permanente, relevant des commissions scolaires et après ça, relevant des conseils d'établissement, de telle sorte qu'il s'est développé dans les années 90 et dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, toute une panoplie de projets particuliers qui avait pour but, donc, de rivaliser avec le réseau privé. Et c'est ça l'origine de l'école à trois vitesses. Le facteur causal, c'est clairement la concurrence du privé et la réponse du milieu scolaire en termes de différenciation des parcours. De telle sorte qu'au moins, se disaient les commissions scolaires, on va essayer de garder nos, en guillemets, nos bons élèves, les bons élèves qui vont au privé, parce que y a la perception d'un meilleur encadrement, une meilleure exigence, d'une meilleure qualité de la forme. On va essayer d'offrir ça, et on va le faire, pour au moins nos bons élèves, ou pour des élèves dont les familles ont des aspirations élevées sur le plan scolaire. Et on peut dire que ça a marché. Et l'exemple classique de ça, c'est le programme d'éducation internationale. Il n'y en a pas beaucoup dans le privé, des programmes d'éducation internationale, mais il y en a beaucoup au public. C'est difficile de vous dire que ça a freiné la progression du privé, parce qu'il y a continué à avoir des effectifs, puis dans certains milieux, ça continue encore. Mais c'est probable que ça a eu un effet relativement positif, au moins sur une certaine sous-population qui se disait, ma foi, c'est le meilleur rapport qualité-prix, le programme d'éducation internationale au public. Je ne paye pas, c'est gratuit, et puis j'ai la qualité du privé. C'est comme ça que ça s'est développé, puis c'est comme ça que c'est vendu, d'une certaine manière, par les acteurs scolaires.
Puis est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une certaine évolution au niveau des valeurs des parents pour le choix de l'école, le bien public?
On peut dire que l'école, dans la modernité, est à la fois un bien public et un bien privé. Hein? Ça, on s'entend là-dessus. C'est un bien public parce que ça contribue à la cohésion sociale, ça contribue à créer une citoyenneté active et intelligente, si je peux dire ça comme ça. Et ça contribue, bien sûr, à développer les compétences nécessaires au développement de la société et notamment au développement économique. Tout le monde s'entend pour dire que c'est un bien collectif. Mais c'est aussi un bien privé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est important pour les familles, pour l'éducation et l'instruction de leurs enfants. Et à propos duquel les parents ont des stratégies, en guillemets, privées, hein, parfaitement légitimes, et qui les amène, au nom de leurs propres valeurs, à gérer les carrières scolaires de leurs enfants. Bon. Et dans une société dite de classe moyenne, c'est ce que nous sommes, l'éducation est extrêmement importante pour les parents et pour les stratégies familiales de maintien de statut social et de mobilité sociale, mais aussi au nom de valeurs de classe moyenne axées sur le développement intégral de la personne, les valeurs individualistes, c'est important. Les parents réalisent à la fois que leurs enfants ont besoin d'être instruits d'une diplomation pour réussir dans la vie et aussi réussir leur vie. Alors, ils investissent là-dedans. Ils investissent là-dedans et ils cherchent à maximiser les avantages et à minimiser les inconvénients de la scolarité. Est-ce qu'on a comme société un bon équilibre entre la dimension bien publique et la dimension bien privée? C'est quelque chose sur lequel on pourrait s'interroger, en effet. Parce que plus on va dans le sens du bien privé, plus ça nous mène à une forme de fragmentation des processus de scolarisation.
Eh bien, tout ça, c'est très intéressant. Donc, je retiens que ça ne date pas d'hier, hein, l'école à trois vitesses. Et on a vu d'ailleurs une évolution, oui, du système scolaire, mais également des valeurs chez les parents. Alors, merci beaucoup pour votre intervention, Claude.
Plaisir.
Alors, Gabriel, dans vos recherches, vous dites que les affectations scolaires auraient un rôle à jouer dans l'origine de l'école à trois vitesses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça?
Bien sûr, mais en fait, c'est tout simplement que l'école à trois vitesses, c'est un phénomène qui est, entre autres et en partie, géographique. Donc, c'est un phénomène qui est essentiellement urbain parce qu'elle doit mettre en concurrence des institutions scolaires les unes avec les autres. Donc, essentiellement, la densité de population, la densité d'étudiants, d'élèves plutôt, n'est pas assez élevée, bien, à ce moment-là, on ne pourra pas avoir une segmentation des écoles. Donc, ça paraît simple à dire comme ça, mais évidemment, en milieu rural, il n'y a pas de concurrence entre le public et le privé. On est déjà dans un espèce de système unifié. Les parents n'ont pas à faire un choix, ils vont simplement aller à l'école la plus près de leur domicile. Dans un contexte urbain, ben là, à ce moment-là, c'est vraiment les politiques d'affectation des élèves qui vont vraiment jouer un rôle à comment les écoles vont se structurer. Donc, dans certains pays, il y a un très fort lien institutionnel, c'est légal, entre les élèves et l'endroit où ils doivent aller. Donc, entre leur résidence et l'endroit où ils doivent aller. Donc, ils sont vraiment obligés d'aller à l'école qui est située la plus près de leur domicile, ce qui fait que la composition du quartier est presque reproduite à l'identique dans l'école qui est la plus près de leur domicile. Tandis que dans un autre type d'univers réglementaire, d'environnement réglementaire, ça va être différent parce que il peut avoir de la flexibilité qui va permettre aux gens de ne pas fréquenter l'école de leur quartier et de faire un choix. C'est le cas au Québec en raison du fait que nos lois permettent en fait aux parents de sélectionner soit une école privée ou après, pour toutes sortes de raisons, les écoles publiques ont créé des programmes particuliers, donc qui permettent de sélectionner une autre école publique qui n'est pas celle qui est située la plus près de leur domicile. Donc, il y a moins de correspondance entre la composition du quartier et la composition des écoles. Le parallèle entre la composition du quartier, la composition des écoles, on peut appeler ça aussi la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire, ça peut avoir des effets positifs ou négatifs. Hein? Donc, si la ségrégation résidentielle elle est très, très forte, par exemple, on peut penser à certains quartiers ethniques aux États-Unis ou certains quartiers après prédominance afro-américaine, à ce moment-là, les écoles vont aussi être à très, très forte prédominance afro-américaine. Donc, il n'y aura aucun mélange entre les élèves. Ce n'est pas nécessairement souhaitable non plus. Donc, il y avait vraiment des efforts aux États-Unis pour essayer de changer la composition des classes, d'essayer de faire du bussing, de changer les quartiers. Mais dans une ville comme Montréal, qui est une ville qui est beaucoup moins, où il y a beaucoup moins de ségrégation résidentielle, il y en a beaucoup, évidemment, Westmount, c'est pas Hochelaga, c'est pas du tout au même niveau que ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres grandes villes nord-américaines. Mais la ségrégation va se faire, pas nécessairement au niveau résidentiel, mais va se faire peut-être de façon plus intense au niveau des écoles, parce que les parents qui vont être mieux nantis ou qui vont avoir eu un meilleur contact eux-mêmes avec l'école, qui vont mieux connaître le système, ont plus tendance à faire des choix, à ne pas aller à leur école de quartier. Et c'est ce qui fait que même si sur papier, parfois, les quartiers sont une relative mixité sociale ou même communautaire ou ethnique dans un quartier, c'est vraiment pas nécessairement le cas dans les écoles. Et les affectations scolaires, comme ça, ont vraiment un rôle dans la constitution des écoles à trois vitesses parce que il y a un peu une hiérarchie des choix où certains parents vont pouvoir sélectionner leurs écoles où on va avoir la familiarité, les compétences nécessaires pour aller dans les écoles et d'autres non.
Excellent. Bien, c'est très intéressant. Alors, je retiens que, dépendamment des lois qu'on a au pays, dans la province, mais aussi en lien avec le degré de favorisation de la famille, là, ça peut vraiment mener à une reproduction de notre école à trois vitesses. Alors, merci beaucoup, Gabriel.
Merci à vous.
Ce balado a été créé pour aborder les inégalités scolaires au Québec. Son format vulgarisé sous forme de questions-réponses souhaite promouvoir la réflexion dans la société québécoise. On vous invite à écouter les autres épisodes de cette série de balados pour entendre nos experts répondre à toutes nos questions.
Ce balado est une création du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec en collaboration avec l'Observatoire québécois des inégalités. Il est produit par Esquad Multimédia.